Voilà, bonsoir à tous et à toutes. Je suis heureux de vous présenter le Père Jacques Scheuer, que beaucoup d'entre vous connaissent. Il est venu à plusieurs reprises pour les cours du soir. Il est professeur d'histoire des religions à Louvain-la-Neuve, jésuite, et tout spécialement versé dans les religions de l'Asie. Il a, l'année dernière, il nous a déjà introduit dans le cadre de ses cours du soir au document de Vatican II, Nostra Aetate, sur le rapport entre l'Église catholique et les autres religions. Et vous pouvez l'écouter encore sur Internet. Vous savez que vous pouvez entendre les conférences sur Internet. Et vous pourrez lire dans quelques jours. Je t'ai dit que ce serait au mois d'avril, mais ce sera en janvier. Donc non, je me trompe. Oui, parce que tu n'as pas. Oui, je t'ai pas encore envoyé. Donc oui, au mois d'avril, son texte sera sur la NRT, dans la NRT. Disons, oui, j'ai noté que le 8 avril prochain, il y aura une conférence à Namur de ta part, Jacques. À propos d'un colloque, au cours d'un colloque sur monade, diade, triade, les approches de la réalité, et bien voilà, tu évoqueras ce qui précisément résiste à toutes ces catégories en Inde. Comment ne faire ni une ni deux, le cas de l'Inde. Mais pour le moment, nous sommes dans notre partie du cours sur la foi où nous réfléchissons sur les implications de la foi chrétienne, du contenu de la foi, de l'acte de foi. Et après avoir vu la semaine dernière les implications éthiques de la foi, nous regardons maintenant la dimension de quelle est l'universalité de la foi chrétienne, sa singularité, et donc comment peut se faire le rapprochement avec les autres cultures, les autres religions, comment peut se faire l'évangélisation de cette foi, comment aujourd'hui, au début du XXIe siècle, on peut réfléchir sur la foi missionnaire, en quelque sorte. Même si ce mot de mission est certainement un peu piégé aujourd'hui, avec toute l'histoire que l'on a connue. Alors, merci beaucoup, Jacques, d'être venu ce soir pour nous parler de cela.
Voilà, bonsoir et merci pour votre invitation. Donc en effet, il y a eu l'année dernière dans un cycle sur des textes de Vatican II à l'occasion des 50 ans de Vatican II, toute une série de conférences ou d'exposés sur différents textes de ce concile. Dans ce cadre-là, j'étais parti du texte de Nostra Aetate, donc la petite déclaration très, très rapide, très, très brève, cinq petites pages sur l'attitude de l'Église chrétienne, de l'Église catholique en particulier, à l'égard des autres traditions religieuses, des autres religions, des autres communautés de croyants, un texte bref, mais un texte très, très neuf, très novateur. Peut-être le texte du Concile qui représente la plus grande nouveauté, je dirais, par rapport à la tradition, ce qui d'ailleurs a causé quelques difficultés, dans la mesure où il y a d'abord eu une petite minorité d'évêques qui n'ont pas voulu signer ce texte, ou en tout cas qui disons, ont voté contre la promulgation finale de ce texte. Ça s'est poursuivi par quelques groupes dans l'Église chrétienne qui se refusaient d'entrer dans cette perspective du dialogue avec les autres religions, dans le monde francophone en particulier, des gens qui se sont retrouvés regroupés autour de Mgr Lefebvre, comme vous le savez certainement par la presse. Mais voilà, j'avais pas beaucoup développé ce qui s'est passé depuis 50 ans. Donc ce texte très neuf, très novateur, mais qui laissait beaucoup de choses un petit peu en pointillé, parce que certaines questions n'étaient pas encore mûres, ou bien parce qu'on estimait que le temps n'était pas venu de clôturer certains débats, hein, il fallait plutôt ouvrir les choses. Depuis 50 ans, bon, la réflexion a progressé, elle a avancé, les expériences aussi. Et puisqu'on m'a proposé ce thème de dialogue et annonce, donc qui est un thème beaucoup plus précis d'une certaine manière, c'est un angle d'attaque bien précis dans un contexte qui est beaucoup plus large, qui représente le dialogue interreligieux, la théologie chrétienne sur la pluralité des religions et ainsi de suite. Donc, puisqu'on m'a proposé dialogue et annonce, je me suis dit que j'allais pour l'essentiel présenter un document, ce n'est pas vraiment un petit document puisqu'il fait une quarantaine de pages, mais un document qui date de 1991, n'est pas très ancien, mais enfin il n'est pas tout nouveau non plus, mais qui me semble un document qui peut être un document de référence. C'est un document qui est encore, enfin qui est, me semble-t-il, très nuancé, très équilibré sur une question qui a alimenté pas mal de débats et dans lequel on a vu des gens prendre des positions parfois un peu en flèche dans le sens du dialogue ou dans le sens de l'annonce. Ici, on a vraiment essayé d'aboutir à une sorte de, bon, je ne dirais pas de synthèse définitive, il n'y a jamais de synthèse définitive, mais de vision équilibrée, nuancée, assez profonde, me semble-t-il, au sens à la fois théologique, spirituel et pastoral aussi dans la vie de l'Église. Alors donc, après Vatican II, pour introduire un petit peu à la genèse de ce texte, après Vatican II proprement dit, bien sûr, il faudrait rappeler, je ne vais pas entrer là-dedans, mais rappeler tout l'apport des papes qui se sont succédés, d'abord de Paul VI, hein, le fait de son voyage à Jérusalem, par exemple. Bon, aujourd'hui, on est habitué au voyage des papes un peu partout, mais à l'époque, c'était vraiment quelque chose d'un peu révolutionnaire. Et puis son voyage à Bombay aussi, donc avec le contact avec l'hindouisme. Parler de Jean-Paul II ensuite, de ses enseignements en particulier, on va y revenir parce que le texte que nous abordons ce soir, il fait allusion plusieurs fois à ses enseignements sur la pluralité des religions, sur le dialogue interreligieux, sur la mission, l'évangélisation, et en particulier sur le rôle de l'Esprit-Saint, hein, qui est actif, qui est une force opérante, et dans le dialogue et dans l'annonce. Et puis surtout, et le texte aussi, le texte de ce soir va y faire allusion, va le rappeler, la fameuse journée d'assises en 1986, hein, qui elle aussi a représenté un geste assez novateur, assez révolutionnaire même, hein, d'inviter des représentants de toutes les traditions religieuses du monde, pratiquement, enfin un grand nombre en tout cas de ces représentants, une grande diversité de représentants de toutes les églises chrétiennes, mais aussi d'un grand nombre d'autres religions, pour une journée de pèlerinage, de jeûne et de prière pour la paix. Donc tout cela, si vous voulez, montre qu'il y a eu une évolution et dans la réflexion chrétienne et dans l'action chrétienne, l'action des églises aussi, dans le cadre de cette pluralité des religions dont nous devenons de plus en plus conscients. Alors, plus immédiatement, il y a eu en 1984 un premier document qui est intitulé « Dialogue et mission », donc le nôtre sera « Dialogue et annonce », mais « Dialogue et mission », rédigé par le Conseil pontifical, donc à Rome, par le Conseil pontifical pour le dialogue interreligieux. C'était le nouveau nom de ce qui avait commencé à l'époque du Concile sous le nom de secrétariat pour les non-chrétiens. Alors, les non-chrétiens, c'est une appellation un peu négative. Ça ne fait jamais tellement plaisir aux gens de se voir désignés de façon négative. Donc on a trouvé, après tout, les chrétiens, c'est une religion non-bouddhiste, n'est-ce pas? C'est une façon aussi de définir les choses, pourquoi pas? Donc c'est assez commode parce que c'est très court, hein, donc ce n'est pas nécessairement très méchant, c'est pratique, mais enfin ce n'est pas très poli tout de même. Donc maintenant c'est le Conseil pontifical pour le dialogue interreligieux, et en 1984, à la suite de pas mal de débats dans la foulée du Concile, où certains par exemple avaient dit un peu vite le dialogue, c'est le nouveau nom de la mission, sous-entendu, la mission c'est fini, maintenant c'est le dialogue. Bon, à ce moment-là, évidemment, le problème est résolu, mais de façon un peu simple. Donc, un premier document sur dialogue et mission. Comment les perspectives de dialogue, donc, qui n'ont pas été inventées par Vatican II, mais qui étaient tout de même très nouvelles à l'époque de Vatican II, et puis d'autre part, le devoir d'évangélisation qui est celui de la communauté chrétienne, comment cela peut se combiner, comment cela peut se renforcer mutuellement, et ainsi de suite, plutôt que de se détruire ou de se miner réciproquement. Ce premier texte, Dialogue et Mission, a apporté des éléments intéressants de réflexion, mais il n'a pas toujours donné des définitions très précises de ce dont il parlait, et très vite, en fait, un an ou deux après, on a senti le besoin d'un nouveau document qui revienne sur la question, qui précise et qui aille plus loin. Et ce deuxième document a eu une rédaction assez complexe parce que c'était au départ un projet du secrétariat pour le dialogue interreligieux, mais assez vite, la congrégation romaine pour l'évangélisation, qui était le nouveau nom de cette congrégation qui était connue dans le temps sous le nom de Congrégation pour la propagation de la foi, mais qu'on traduisait souvent en français par Congrégation de la propagande, ce qui évidemment devenait un petit peu... bon, donc maintenant pour l'évangélisation des peuples, a demandé à être associé au travail de réflexion et de rédaction. En disant, bah, c'est bien, vous parlez du dialogue et de la mission, mais nous, la mission, c'est notre spécialité, hein, ou c'est notre ministère, c'est notre responsabilité, donc est-ce qu'on pourrait pas travailler ensemble ? Et donc, ils ont travaillé ensemble pendant 3-4 ans. De façon, me semble-t-il, assez heureuse, finalement, parce que le texte, en effet, est assez équilibré, très nuancé, même si les participants, semble-t-il, enfin, il y en a un ou deux qui m'ont confié à l'occasion qu'ils en avaient un petit peu assez de ces réunions dans lesquelles les gens du secrétariat pour le dialogue, du conseil pour le dialogue, ajoutaient un adjectif pour renforcer une phrase sur le dialogue, et alors ceux d'en face ajoutaient un adjectif pour rétablir l'équilibre du côté de la mission, et donc ça devenait un petit peu fastidieux, mais tout de même le texte est intéressant, et vers la fin de la rédaction, ça s'est encore un petit peu compliqué, parce que la congrégation pour la doctrine de la foi, donc du cardinal Ratzinger, qui avait la supervision, qui s'est un peu, je dirais, arrogé la supervision sur les textes de toutes les autres congrégations romaines, a dit oui, mais il faudrait aussi que je vois si le texte est bien conforme à la foi, n'est-ce pas, et que j'entre dans le débat final ou la rédaction finale. Donc finalement, ils étaient trois groupes à participer vers la fin. Donc en 1990, c'était prêt, et puis on a appris que Jean-Paul II préparait une encyclique sur l'évangélisation et Redemptor Hominis. Redemptoris Missio, et alors on s'est dit, bah, par courtoisie, on va pas sortir notre texte avant le pape, donc on a encore attendu quelques mois qu'il publie l'encyclique, et puis voilà, le texte est sorti en 1991. Alors c'est un texte en trois grandes parties. La première et la plus longue est consacrée au dialogue, et elle a été évidemment surtout rédigée par le Conseil pontifical pour le dialogue. Ensuite, une partie plus brève sur l'annonce, et puis alors une troisième partie qui les confronte en quelque sorte et qui montre comment on peut penser leur rapport. Je vous avais trouvé en entrant donc un texte qui, enfin une feuille qui reprend quelques passages, des passages qui m'ont paru plus importants, un peu plus denses aussi, et qui méritent d'être creusés peut-être, ou d'être lus ou relus plus à l'aise. Voilà. Alors je vais suivre le texte de façon un peu inégale. La partie sur le dialogue, je la développerai davantage parce qu'elle contient des choses plus nouvelles, des réflexions plus récentes. La partie sur l'annonce, je dirais, est tout à fait intéressante et valable, mais elle est relativement plus classique et apporte moins de nouveautés sans doute. Et puis on en viendra à la troisième et dernière partie pour les relations entre les deux. Dans l'introduction, donc, on va commencer par évoquer Vatican II et notamment Nostra Aetate, donc la déclaration sur le dialogue, sur l'attitude plutôt de l'Église chrétienne à l'égard des autres religions, puisque 25 ans ont passé. Ce n'est pas le seul texte de Vatican II. En fait, notre texte de ce soir, il est daté exactement du 25e anniversaire du document de Vatican II sur la mission. sur l'évangélisation. Donc ad gentes, n'est-ce pas, vers les peuples, la mission ou l'évangélisation des peuples. On rappelle qu'il y a déjà eu en 1984, comme je viens de le dire, ce texte sur le dialogue et la mission, et tout de suite, on dit que la première partie du document donc, est rédigée par le Conseil pontifical pour, enfin, a été rédigée dans un premier jet, ensuite discutée, critiquée, réélaborée, réécrite par les deux ou les trois groupes qui ont participé à sa rédaction. On rappelle dans l'introduction l'actualité du thème, l'actualité de la question « dialogue et annonce ». D'abord en rappelant qu'on est de plus en plus dans une situation, nous sommes de plus en plus dans une situation de pluralisme religieux, comme dit le texte, je dirais peut-être d'abord de pluralité religieuse, c'est-à-dire un état, une situation dans laquelle des religions multiples cohabitent dans le monde, et puis sans doute aussi de pluralisme peut-être, au sens où le pluralisme alors serait davantage l'interprétation qu'on donne à cette situation-là, ou l'attitude que l'on prend dans cette situation-là, mais peu importe. Et puis on dit, la réflexion sur le dialogue a avancé, a progressé depuis le Concile, parce que la réflexion sur le dialogue, elle progresse en fonction de l'expérience que l'on fait du dialogue. Ce n'est pas simplement de dire à l'avance, a priori, ce que le dialogue doit être, mais l'expérience du dialogue qui s'est développée depuis le Concile nous a appris des choses et aussi a soulevé un certain nombre de questions. Et donc, dans la dernière partie de ce numéro 4, vous les avez sous les yeux, on dit ceci, donc la pratique du dialogue suscite certains problèmes dans l'esprit de beaucoup. Il y a ceux qui sembleraient penser, mais on dit tout de suite que c'est de façon erronée, hein, que dans la mission actuelle de l'Église, le dialogue devrait tout simplement prendre la place de l'annonce. À l'opposé, d'autres n'arrivent pas à comprendre la valeur du dialogue interreligieux. J'ai cité des gens comme ceux qui se sont retrouvés un petit peu autour de Mgr Lefebvre, par exemple, mais ils ne seraient pas nécessairement les seuls. D'autres encore, sans mettre en cause soit le dialogue, soit l'annonce, sont perplexes et s'interrogent sur leur relation. Si le dialogue interreligieux est devenu tellement important, l'annonce du message évangélique a-t-elle perdu son urgence ? L'effort pour amener des personnes à entrer dans la communauté de l'Église, par le baptême notamment, est-il devenu secondaire ou même superflu ? Et donc il y a maintenant, on ressent le besoin de certaines orientations doctrinales et pastorales. Le texte en effet va se placer au niveau doctrinal et aussi au niveau pastoral, orientation auxquelles voudrait justement contribuer le présent document, sans prétendre donner une réponse exhaustive à toutes les questions complexes. Donc le document, plusieurs fois, s'exprime de façon très modeste, en quelque sorte, et assez prudente, en disant, voilà, on propose des orientations, mais les choses, la réflexion va certainement encore évoluer. Le document ensuite évoque la journée d'assises, je n'y reviens pas, je l'ai déjà fait, et puis il dit à qui le document est adressé. Bon, tout d'abord à tous les catholiques, à tous les membres de l'Église catholique, bien sûr, ce sont des orientations, pas vraiment des directives, mais en tout cas des orientations fermes. Il parle aussi aux chrétiens des autres églises, en leur disant ben, il y a peut-être des choses que vous trouverez peut-être de l'intérêt à ce qui est proposé dans ce texte. Et puis il dit, il est à espérer aussi que les fidèles des autres religions, s'ils connaissent ce texte ou s'ils en prennent connaissance, eh bien, puissent y trouver des réflexions qui les intéressent. Après cela viennent plusieurs définitions, en tout cas plusieurs paragraphes qui vont tâcher de préciser les termes pour qu'on sache bien de quoi l'on parle dans toute la suite de ce document de 40 pages. Et c'est ce qui n'avait pas tellement été fait dans le document de 84, de sorte qu'il y avait des interprétations un peu floues qui subsistaient. On va distinguer d'abord mission évangélisatrice et annonce. La mission évangélisatrice, parfois on dit l'évangélisation, la mission, mais souvent la mission évangélisatrice, c'est un petit peu, si vous voulez, toute la mission de l'Église, toute la responsabilité missionnaire de l'Église, ou toute la fidélité de l'Église à l'Évangile, qui est désignée de façon très large, très englobante, de cette façon-là. Alors que le mot annonce, lui, aura un sens qui sera beaucoup plus bien délimité, bien précis. Hein. Ce sera l'annonce formelle, explicite, directe, l'annonce claire et sans ambiguïté, dit le texte du Seigneur Jésus. Et cette annonce, on pourrait encore voir en elle plusieurs dimensions. Il y a le kérigme, c'est-à-dire vraiment la première annonce, la bonne nouvelle, n'est-ce pas ? Et puis il y a la prédication et la catéchèse, ou le catéchuménat et la catéchèse, hein, qui vont rentrer dans cette annonce. Voilà pour mission évangélisatrice au sens large, annonce au sens assez précis. Même travail pour le mot dialogue. Donc, tout le monde sait qu'il peut avoir beaucoup de sens. Moi, j'avoue que c'est un mot qui est à la fois très beau et, à mon avis, est en train de s'user très vite, parce que si on écoute le journal radio le matin, n'est-ce pas, il y a eu un dialogue entre le ministre et les syndicats, il y a eu un dialogue entre ceci et cela. Donc tout le monde est en train de dialoguer. Donc finalement, dans quelques années, on sera fatigué de ce mot-là, je pense. Mais donc, on va distinguer, et vous avez ce texte au numéro 9 sous les yeux. On distingue plusieurs sens. Le terme dialogue peut se comprendre de diverses manières. Premièrement, au niveau purement humain, on pourrait dire anthropologique, cela signifie communication réciproque en vue d'un but commun, ou à un niveau plus profond, d'une communion interpersonnelle. Bon, ce n'est pas nécessairement religieux et ce n'est pas nécessairement chrétien, bien sûr. Deuxièmement, le terme de dialogue peut être pris dans le sens d'une attitude. Alors c'est plutôt ici une attitude ou un respect plutôt qu'une activité, une attitude de respect, un esprit, je dirais. Deuxièmement, donc, une attitude de respect et d'amitié qui imprègne toutes les activités qui constituent la mission évangélisatrice de l'Église, l'esprit du dialogue. Troisièmement, dans un contexte de nouveau de pluralisme religieux, le terme de dialogue signifie l'ensemble des rapports interreligieux, du moins lorsqu'ils sont positifs et constructifs, avec des personnes et des communautés des diverses croyances, afin d'apprendre à se connaître et à s'enrichir les uns les autres. Donc déjà, cette réciprocité est soulignée, elle le sera encore, s'enrichir les uns les autres. Tout en obéissant, car tous doivent se soumettre à la vérité telle qu'ils peuvent la comprendre, et en respectant aussi la liberté de chacun. Donc pas de dialogue sans recherche de vérité et sans respect de la liberté de chacun. Enfin, on arrive au terme de l'annonce, on revient sur le terme de l'annonce pour dire que l'annonce est, c'est pas simplement un discours théorique, ce n'est pas non plus une conversation, c'est une invitation. Hein, une annonce, c'est une invitation. Invitation à s'engager dans la foi à l'égard du Christ et à éventuellement peut-être aussi entrer par le baptême dans la communauté chrétienne, dans l'Église. Et on dit déjà à ce moment-là, et on y reviendra au moins par deux fois dans le texte, que l'annonce, je cite, est le fondement, le centre et le sommet de l'évangélisation. Le fondement, le centre et le sommet de l'évangélisation. Et en disant cela, on place d'une certaine manière l'annonce, je dirais, au-dessus du dialogue. Il n'y a pas, on ne les met pas exactement sur le même plan, parce qu'on ne dira pas du dialogue qu'il est le fondement, le centre et le sommet de l'évangélisation. Dernière définition, on précise le sens du mot conversion. En tout cas, on rappelle, tout le monde le sait, mais on le rappelle, c'est assez clair, qu'il y a un double sens. Tous ceux qui participent à des relations interreligieuses ou un dialogue interreligieux, eh bien, doivent être ouverts à une conversion plus profonde à ce que Dieu attend d'eux. Donc il y a une sorte d'approfondissement de l'engagement de foi pour tous les partenaires d'un dialogue, qu'ils soient chrétiens, qu'ils soient bouddhistes, qu'ils soient tout ce qu'on veut. Et puis il y a la conversion au sens plus précis ou plus spécialisé du terme, si vous voulez, qui est, comme dit le texte, un changement d'adhésion religieuse, le fait qu'il arrive que des gens quittent une conviction religieuse et une communauté religieuse pour rejoindre une autre religion, une autre communauté religieuse. Enfin, on dit que, bien sûr, il sera question des relations avec les religions, mais on ne parlera pas dans ce texte-là du judaïsme, parce que les relations des chrétiens avec les juifs, les relations des chrétiens avec les juifs représentent un cas particulier, dans lequel aussi bien le dialogue que l'annonce vont jouer autrement que pour les autres religions. Donc on laisse ça en dehors du champ. Ce sera traité dans d'autres documents, ou ça a été traité dans d'autres documents. Et on ne parle pas non plus des nouveaux mouvements religieux, ou des sectes, ou du Nouvel Âge, ou de choses comme cela, qui, là aussi, seront traitées ou ont été traitées dans d'autres documents. Alors, première partie du texte, donc le dialogue, d'abord. On commence par dire que le dialogue suppose à la fois des connaissances théoriques, il y a un effort de connaître, de découvrir, d'apprécier les différentes religions avec lesquelles on entre en relation, il y a l'expérience concrète, réelle du dialogue, qui est autre chose que ce qu'on peut en imaginer avant d'entrer dans le dialogue, et il y a une évaluation théologique, il y a un discernement théologique, un discernement de foi, qui doit être fait quelque part dans le déroulement de ce dialogue. On rappelle alors les textes de Vatican II, notamment Nostra Aetate, sur la relation de l'Église avec les autres communautés de foi, les autres religions, pour dire que selon Vatican II, l'histoire du salut trouve son axe et son moment décisif dans le fait que Dieu offre son salut dans le Christ, dans l'incarnation, dans la mort et dans la résurrection du Christ, mais que tous les êtres humains, c'est Vatican II qui le dit aussi, tout être humain est d'une certaine manière associé à ce salut, c'est-à-dire, comme dit Vatican II, associé au mystère pascal. Donc le fait d'être associé, quelle que soit la religion dans laquelle on se trouve, ou même si on n'a pas de religion, la foi chrétienne dit que toute personne humaine est associée au salut, c'est-à-dire au mystère pascal du Christ. Il y est associé par l'Esprit Saint, par la puissance de l'Esprit Saint, d'une manière que Dieu connaît. Donc on ne prétend pas définir, connaître jusqu'au bout comment cela se passe, cela est laissé en partie du moins au mystère de Dieu. Donc c'est l'action de l'Esprit-Saint qui fait que tout être humain est déjà concerné par le salut dans le Christ, hein, et que cet Esprit-Saint était actif dans l'histoire de l'humanité avant même que Jésus ne soit mis à mort et ressuscité. On arrive alors à un paragraphe 18 que vous avez de nouveau dans vos notes sur le rôle de l'activité de l'Église, donc à la suite du Christ et dans la puissance de l'Esprit-Saint, c'est l'Église qui porte la charge de cette mission évangélisatrice. Le Concile n'ignore pas que l'activité missionnaire de l'Église est nécessaire pour mener à leur perfection dans le Christ les éléments qui peuvent être des éléments de vérité ou de sainteté, qui se trouvent dans les autres religions, mais qui ne s'y trouvent pas de manière plénière, qui ne sont pas en plénitude. Citation du Concile, « Tout ce qui se trouvait déjà de vérité et de grâce chez les nations païennes, comme par une secrète présence de Dieu, l'Église le délivre des contacts mauvais, le rend au Christ son auteur, qui détruit l'empire du diable et arrête la malice infiniment diverse des crimes. Aussi tout ce qu'on découvre de bon semé dans le cœur et l'âme des hommes, ou dans les rites particuliers et les civilisations. » Alors ça va revenir plus tard aussi, mais vous voyez bien la distinction que l'on fait, ou la complémentarité, ce n'est pas des choses qui se passent uniquement dans le cœur ou dans la conscience intime, mais qui s'expriment aussi dans des rites et dans des organisations religieuses, dans des communautés religieuses et dans des cultures et des civilisations. Donc, de sorte que tout cela, hein, tout ce qui était bon et saint dans ces traditions, ne périsse pas, mais soit purifié, élevé et porté à sa perfection pour la gloire de Dieu, la confusion du démon et le bonheur de l'homme. Et suivent alors des développements assez longs, relativement longs, mais dans lesquels je n'entre pas ou très rapidement, on évoque un petit peu toutes les étapes de cette histoire du salut en disant qu'elle a commencé avec le début de l'histoire de l'humanité. Et que, bien sûr, la Bible parle en termes d'alliance, mais il y a des alliances au pluriel. Déjà, la création est une alliance. Il y a une première alliance de Dieu avec Adam, avec toute l'humanité en Adam. Et puis, il y a une autre alliance, ce sont des choses que les pères de l'Église avaient déjà dit, n'est-ce pas ? Une autre alliance avec Noé, et puis une alliance avec Moïse, et puis enfin, cette nouvelle et dernière alliance dans le Christ. Donc, ce sont des étapes du salut de Dieu qui se réalisent progressivement pour l'humanité. Et à partir du Christ, évidemment, l'Église alors hérite en quelque sorte de la responsabilité de travailler à la diffusion de ce salut, à la réalisation de ce salut. Il y a dans cette histoire du salut à la fois un pôle singulier, le fait que Dieu choisit un peuple, qu'il y a un peuple élu, mais que ce peuple élu est élu au milieu des nations et pour les nations. Donc il y a à la fois la dimension universelle, il y a un pôle singulier, mais aussi un pôle universel, et les deux ne doivent pas évidemment être vus comme une contradiction, mais comme une tension qui est plutôt positive, une tension de complémentarité. De même, si l'on voit comment le Christ s'exprime et comment il se comporte, ben, d'une part il dit « je suis venu pour les brebis perdues de la maison d'Israël », ce qui peut sembler assez limité, mais en même temps, il fait l'éloge de la foi du centurion, en même temps, il entre en conversation, on pourrait dire en dialogue, avec la Samaritaine. Et donc, dans le Nouveau Testament aussi, non seulement dans les Évangiles, mais aussi par la suite, il va y avoir toujours ce balancement entre un pôle plus singulier et un pôle plus universel, dont le texte dit bien qu'ils peuvent paraître contradictoires, mais que ils sont complémentaires. Et lorsque la Bible, l'Ancien et le Nouveau Testament s'expriment sur les autres religions, il faut bien le reconnaître, beaucoup de déclarations assez négatives qui dénoncent l'idolâtrie, qui dénoncent toutes sortes de dérives ou de déviations. Il y a aussi des textes, et dans le Nouveau Testament, et puis chez les pères de l'Église, qui parlent des semences du Verbe, et donc de valeurs positives, qui peuvent et qui doivent être reconnus dans ces traditions. On revient ensuite, on fait une nouvelle allusion aux enseignements de Jean-Paul II, à la journée de prière d'assises, qui est une occasion de rappeler que, comme Jean-Paul II l'avait expliqué d'ailleurs à la Curie romaine après la journée d'assises, y compris à certains cardinaux qui n'étaient pas enthousiastes, je crois, de cette journée d'assises et pas tout à fait convaincus, il leur avait expliqué qu'à son sens, toute prière authentique, c'est-à-dire une prière qui est authentique lorsqu'elle est prononcée, lorsqu'elle est priée dans le cadre de n'importe quelle religion, est une prière qui se fait avec l'assistance de l'Esprit-Saint ou avec la puissance de l'Esprit-Saint. Il y a une inspiration de l'Esprit-Saint qui porte tout être humain à élever une prière vers Dieu. Reconnaître les valeurs qui se trouvent dans les religions, reconnaître les semences du Verbe, reconnaître ce qu'elles peuvent avoir de vérité et de sainteté, ne veut pas dire évidemment, et le texte s'empresse ensuite de le préciser, n'est-ce pas, que tout ce qui se trouve dans toutes les religions est automatiquement bon, valable, positif et doit être en quelque sorte béni par les chrétiens. Non, il faut un travail pour identifier. Alors, c'est toujours un travail qu'il faut faire avec prudence et nous ne sommes pas vraiment les juges, Dieu seul juge, mais nous pouvons quand même essayer d'apprécier et de discerner, tout un travail pour discerner donc les éléments de grâce, mais en sachant que si la grâce est active dans l'histoire de l'humanité, y compris dans l'histoire religieuse de l'humanité, eh bien le péché aussi, ou les déviations aussi, sont actives. Et il y a certainement, sur certains points, des contradictions entre les enseignements des diverses religions et les enseignements de la foi chrétienne. Il peut y avoir des incompatibilités entre des éléments de ces religions et des éléments de la foi chrétienne. Par conséquent, il y a une purification qui est nécessaire, mais précisément le dialogue est un bon terrain, est un bon lieu où peut se faire ce travail de purification. Vous avez ça dans le paragraphe 32, dans les photocopies, le dialogue et la purification. Cela signifie donc que tout en entrant avec un esprit ouvert dans le dialogue avec les membres des autres religions, les chrétiens peuvent, d'une manière pacifique, donc la manière est importante aussi, peuvent inciter les membres des autres religions à réfléchir sur le contenu de leurs croyances. Mais alors, ce qui est intéressant, c'est que le texte ne voit pas les choses dans un seul sens, comme si les chrétiens étaient là pour interroger les autres et leur dire « bon, réfléchissez un petit peu à ce que vous faites et à ce que vous pensez », mais les choses peuvent aller aussi dans l'autre sens, puisque on nous dit, et ça je pense que c'est assez nouveau, je ne pense pas qu'il y avait beaucoup de textes dans l'histoire de l'Église qui disaient des choses comme cela, mais les chrétiens eux-mêmes doivent accepter à leur tour d'être remis en question. En effet, malgré la plénitude de la révélation de Dieu en Jésus-Christ, cela n'est pas mis en question, la manière suivant laquelle les chrétiens comprennent parfois leur religion et la vivent peut avoir besoin de purification. Donc il y a beaucoup de petits bémols ou de petites précautions dans la phrase, mais il y a quand même cette idée que les chrétiens eux-mêmes doivent accepter dans le dialogue d'être remis en question. Alors, cette responsabilité des chrétiens et ce rôle de l'Église chrétienne donc, se situe dans cette histoire du salut, dans cette réalisation progressive de l'histoire du salut, une dimension historique et eschatologique, dans laquelle l'Église, selon les enseignements du Concile, et on les rappelle ici, est un sacrement de salut, sacrement, signe et instrument universel du salut de Dieu. Et par conséquent, il faut réfléchir sur les rapports entre l'Église chrétienne, l'Église catholique en particulier, et le royaume de Dieu. On ne peut pas identifier tout simplement l'Église et le royaume. Le royaume de Dieu est plus large, il déborde les frontières de l'Église, mais on ne peut pas, à l'inverse non plus, séparer radicalement le royaume de Dieu et l'Église, comme si le royaume de Dieu était évidemment essentiel, mais l'Église perdrait de son importance. Si l'Église perd de son importance, il n'y a plus d'annonce, évidemment, qui puisse être faite par l'Église. Donc je situe simplement cette question et cette recherche d'équilibre, disons, ou de bonne coordination, bonne compréhension des relations, des rapports qu'il y a entre l'Église et le royaume de Dieu. Ce n'est ni une simple identité, ni non plus une séparation. Le texte développe quelque peu cette réflexion. En ajoutant que si l'Église est le sacrement universel du salut, eh bien ceux qui ne sont pas chrétiens, ceux qui peut-être même ne connaissent pas du tout cette Église, cependant sont d'une certaine manière, alors comment ? Sont d'une certaine manière orientés vers l'Église ou ordonnés à l'Église. Dans leur recherche de Dieu, si vous voulez, leur recherche de Dieu ne se fait pas sans relation avec le mystère de l'Église et le rôle de l'Église, même s'ils n'ont pas peut-être rencontré ou s'ils n'ont pas connu cette Église de Dieu. Et donc l'Église est chargée d'amener à maturité, d'amener à plénitude les germes du Verbe de Dieu, les germes du Christ qui sont présents, ou les germes du royaume qui sont présents, qui peuvent être présents dans ces religions. Il y a une dimension de progression, une dimension, comme dit le texte aussi, de pèlerinage. Cette activité de dialogue, il s'agit toujours de dialogue, on arrive bientôt à la fin de la section sur le dialogue, est un dialogue de salut par conséquent, le dialogue du salut, puisque c'est un dialogue qui prend place dans cette histoire de salut et dans la responsabilité, dans le rôle que l'Église joue dans cette histoire de salut. Une expression « dialogue de salut » qui a été beaucoup utilisée, si je me rappelle bien, par Paul VI dans certaines de ses encycliques. Et donc vous avez le texte au numéro 38. Dans ce contexte, il devient plus facile de voir pourquoi et dans quel sens le dialogue interreligieux est un élément intégrant de la mission évangélisatrice de l'Église. La raison fondamentale de l'engagement de l'Église dans le dialogue n'est pas simplement de nature anthropologique. Bon, ça fait partie de la vie humaine, de la vie en société, de la culture, de dialoguer avec les gens, entre gens différents, bien sûr, tout à fait, mais ce n'est pas seulement cela. Elle est aussi théologique. Pas simplement théologique parce que le théologien en parle, mais théologique parce que ça vient de Dieu, finalement. En effet, Dieu, dans un dialogue qui dure au long des âges, a offert et continue à offrir le salut à l'humanité. Donc celui qui a commencé le dialogue avec l'humanité, c'est Dieu lui-même. C'est ça l'origine ou la source première du dialogue. En fidélité à cette initiative de Dieu, l'Église se doit donc d'entrer dans un dialogue de salut, pas dans une conversation de politesse, mais dans un dialogue de salut avec tous. Voilà. Vous avez au numéro 42, mais je ne développe pas cela, vous pouvez le lire à l'aise, le rappel de ce qui se trouvait déjà dans le document de 1984, Dialogue et Mission, où l'on distinguait quatre dimensions de dialogue, c'est-à-dire que le dialogue n'est pas seulement le dialogue un peu formel, mais il y a une dimension de dialogue lorsque des chrétiens rencontrent d'autres croyants dans la vie de tous les jours, dans la vie quotidienne, dans la vie en société. Deuxièmement, dans les œuvres, c'est-à-dire dans les engagements sociaux, dans les projets communs, ça peut être l'éducation, ça peut être la vie politique, ça peut être toutes sortes de choses, à condition du moins que chacun exprime un petit peu aux autres dans quelle mesure et comment sa foi inspire son engagement dans la vie de la société. Troisièmement, le dialogue plus au niveau des doctrines, où des théologiens en particulier de différentes religions peuvent se rencontrer et confronter et essayer de comprendre mieux leurs enseignements respectifs. Et puis le quatrième, le dialogue de l'expérience religieuse, le dialogue qui est vraiment au niveau de la vie spirituelle et du retentissement sur la vie spirituelle de la rencontre de croyants d'autres religions. C'est devenu une présentation, et ce n'est pas une échelle, hein, il n'y a pas des niveaux, on ne met pas une des formes de dialogue au-dessus de l'autre. Elles sont complémentaires, elles sont sur le même pied, et c'est une présentation qui est assez commode, assez éclairante, et qui maintenant est reprise par d'autres. J'ai vu des documents protestants, par exemple, qui parlaient du dialogue en reprenant cette énumération de quatre dimensions. On dit aussi ensuite que c'était bien dans les préoccupations des années 80, des années 90, que ce dialogue a de l'importance pour toutes sortes d'autres dimensions de la mission évangélisatrice de l'Église, y compris pour le développement intégral, pour la justice sociale, pour la libération humaine, l'engagement pour les droits de l'homme, tout ce que vous voulez. Enfin, toutes ces dimensions-là sont concernées aussi par le dialogue. Et puis, on fait un petit développement sur le rapport ou la place du dialogue dans les cultures. Et j'ai reproduit ce texte parce qu'il me semble qu'il pourrait aussi être l'amorce de toute une réflexion sur le rapport aux cultures. Un autre contexte, je lis le 45 là-bas, un autre contexte dans lequel le dialogue interreligieux semble urgent aujourd'hui est celui de la culture. Le concept de culture est plus large que celui de religion. Selon une certaine conception, la religion représente la dimension transcendante de la culture et donc son âme. Les religions ont certainement contribué au progrès de la culture et à l'édification d'une société plus humaine. Cependant, les pratiques religieuses ont parfois aussi eu une influence aliénante à l'égard des cultures. Et enfin, une culture autonome sécularisée peut aujourd'hui jouer un rôle critique vis-à-vis de certains éléments négatifs dans telle ou telle religion. Donc il y a pas mal de réflexions là qui sont évoquées en quelques lignes et qui évidemment pourraient chacune donner lieu à pas mal de développement. La question est donc complexe, et on dit ensuite qu'elle est complexe parce qu'il y a de multiples religions, de multiples cultures, parfois dans la même société ou dans la même région du monde. La fin du second chapitre sur le dialogue va notamment évoquer différents obstacles ou différentes difficultés du dialogue. Je ne m'attarde pas là-dessus et simplement je lis la toute dernière phrase de ce long chapitre. On conclut en disant « C'est pourquoi, malgré les difficultés, malgré les lenteurs, malgré les obstacles du dialogue, l'engagement de l'Église dans le dialogue demeure ferme et irréversible. » Donc ceux qui auraient imaginé de remettre fondamentalement en question le dialogue interreligieux ne sont pas ici entendus ou reçus. En tout cas, l'Église s'engage dans le dialogue de façon ferme et irréversible. Deuxième partie, donc l'annonce. Je disais, c'est un texte qui est en un sens moins nouveau parce que la réflexion sur l'annonce est quelque chose qui est qui est une longue tradition dans la vie de l'Église. Il y a déjà eu beaucoup de textes. C'est relativement moins novateur, si vous voulez, ce qui ne veut pas dire que c'est moins important, hein, mais ça demande peut-être moins d'être rappelé. Il y a des développements relativement longs sur les sources bibliques, notamment les sources du Nouveau Testament, hein, la conception du salut, la conception de l'annonce aussi dans les différents évangiles. Il y a tout un paragraphe long qui parle de ce que Pierre, l'apôtre Pierre dans les Actes des Apôtres, l'apôtre Paul dans les Épîtres, Jean dans son évangile et dans ses lettres aussi, disent sur l'annonce du salut, etc. Donc je pense qu'il n'est pas nécessaire de rappeler cela ici dans le détail. J'en arrive au passage 66, alors qui est important pour bien équilibrer les choses et marquer l'urgence de l'annonce et le devoir d'annoncer. Une fois encore, bien sûr, ces textes sont truffés de citations, n'est-ce pas, soit du Concile, soit de Paul VI et de Jean-Paul II, hein, comme il arrive très souvent dans les textes de magistère. Comme l'a dit le pape Paul VI dans Evangelii Nuntiandi, la présentation du message évangélique n'est pas pour l'Église une contribution facultative, c'est le devoir qui lui incombe, par mandat du Seigneur Jésus, afin que les hommes puissent croire et être sauvés. Ce message est nécessaire, il est unique, il ne saurait être remplacé. Donc qu'on ne vienne pas nous dire que le dialogue est le nouveau nom de la mission, hein, sous-entendu la mission c'est fini, maintenant c'est le dialogue. Donc ce n'est évidemment pas cela. Il ne saurait être remplacé, il ne souffre ni indifférence, ni syncrétisme, ni accommodation, c'est le salut des hommes qui est en cause. Donc la déclaration est tout à fait nette. Maintenant, comment doit se faire cette annonce? De nouveau, il y a des développements relativement abondants, mais dans lesquels je retiens l'un ou l'autre trait. D'abord, on dit l'annonce ne se fait pas dans un vide. Se fait pas dans un vide parce que les gens à qui l'évangile est annoncé et qui peut-être n'en ont jamais entendu parler jusque-là, eh bien chez ces gens-là, l'Esprit de Dieu était déjà actif, était déjà présent et actif. Ensuite, l'annonce doit se faire, doit avoir toute une série de qualités. Elle doit être humble, fidèle, assurée, respectueuse. Elle doit être aussi, c'est ça que je retiens, elle doit être ici dialogale. Dialogale parce que l'annonce ne suppose pas en face d'elle un auditeur passif, mais un auditeur dans lequel peut se développer tout un processus, toute une maturation de ces semences du Verbe qui sont présents en tout être humain, comme le disaient déjà les pères de l'Église. Et puis, comme on a fait pour le dialogue, on va aussi énumérer ou évoquer toute une série d'obstacles ou de difficultés, soit intérieures, soit externes, à propos du dialogue. Là aussi, je n'entre pas dans le détail. Il faudrait évidemment plusieurs heures pour les évoquer, puis ça n'a pas de sens de faire une liste rapide si on ne peut pas s'interroger un petit peu à l'aise sur ce que cela signifie chaque fois. Et la conclusion revient de nouveau sur le devoir d'évangéliser, et même plus précisément le devoir de l'annonce. Hein. On dit que l'annonce est dans la mission évangélisatrice de l'Église, elle est de nouveau la base, le centre et le sommet de cette mission évangélisatrice de l'Église, et que s'il n'y a pas cet élément central qu'est l'annonce, les autres dimensions de la mission évangélisatrice perdent leur cohésion et leur force. Donc on voit bien qu'il y a une approche ici qui est très, comment dirais-je, très englobante, enfin, qui essaye de nouer la gerbe, de ne pas laisser se perdre aucune des dimensions. Et on en arrive enfin à la partie la plus brève, mais qui précisément va maintenant confronter directement ou rapprocher directement le dialogue interreligieux d'une part et l'annonce de l'autre. Vous avez le texte du paragraphe du numéro 77. Le dialogue, alors c'est des choses qui sont bien balancées, n'est-ce pas, bien construites selon un bel équilibre. Le dialogue interreligieux et l'annonce, sans être sur le même plan, hein, puisqu'on a mis l'annonce comme à la fois la base et le sommet, bien, sans être sur le même plan, sont tous deux, sont l'un et l'autre, des éléments authentiques de la mission évangélisatrice de l'Église. Tous les deux sont légitimes, tous les deux sont nécessaires. En outre, ils sont intimement liés. Jusqu'ici, on les avait plutôt regardés séparément, l'un après l'autre, mais on affirme qu'ils sont intimement liés, mais ils ne sont pas interchangeables, parce qu'ils sont différents et qu'ils se complètent. On ne peut pas mettre l'un à la place de l'autre. Le vrai dialogue, alors on va montrer comment ils sont complémentaires, le vrai dialogue interreligieux suppose de la part du chrétien le désir de faire connaître et aimer toujours mieux Jésus-Christ, et l'annonce de Jésus-Christ doit se faire dans l'esprit évangélique de dialogue. Donc en d'autres termes, il n'y a pas véritablement d'annonce chrétienne si elle ne se fait pas en esprit de dialogue, et il n'y a pas véritablement de dialogue si on ne garde pas la préoccupation de faire connaître le Christ. À ce propos-là, il y a quelque chose qui revient plusieurs fois dans ce texte, c'est le témoignage. Celui qui entre dans une démarche de dialogue témoigne de sa foi. Donc, les deux domaines, alors, il y a une drôle de coquille là dans le texte, mais enfin vous pouvez corriger facilement, les deux domaines certes demeurent distincts, mais comme l'expérience le montre, c'est la même et unique église locale, c'est la même et unique personne, c'est-à-dire chaque chrétien en particulier, qui peuvent être diversement engagés dans l'annonce et dans le dialogue, ou dans le dialogue et l'annonce. Donc les deux sont absolument inséparables, en particulier parce que s'engager dans le dialogue, c'est pour un croyant, que ce soit un chrétien, ou que ce soit un hindou, que ce soit un musulman, que ce soit, c'est s'engager avec la totalité de soi-même et avec toute sa foi. Et donc, contrairement à ce que certains ont parfois dit, hein, le dialogue ne consiste pas à mettre sa foi provisoirement entre parenthèses pour entrer dans le dialogue et puis retrouver sa foi quand on a terminé de dialoguer. Non, c'est avec sa foi et avec toute sa foi et l'intégralité de son engagement de foi qu'on entre dans le dialogue. Et par conséquent, ceux qui entrent en dialogue, qu'ils soient chrétiens, qu'ils soient musulmans, qu'ils soient tout ce que l'on veut, eh bien, sont en quelque sorte des témoins, portent témoignage de leur foi, tout en rencontrant l'autre dans un esprit de dialogue. Ce que on vient de lire prépare la transition finale, si vous voulez, qui est de reconnaître que on a parlé nécessairement, inévitablement, en termes très, très généraux, en termes quasi universels, mais finalement, c'est chaque église locale qui doit, dans le contexte qui est le sien, hein, l'église de Belgique, l'église du Japon, l'église du Congo, l'église de la Russie, évidemment, ne vont pas s'acquitter de la même manière de cette responsabilité et du dialogue et de l'annonce, dans les contextes extrêmement différents qui sont les leurs. Donc c'est chaque église locale, et c'est même finalement chaque chrétien individuellement aussi, qui va devoir tirer parti de ces enseignements, les adapter. Il me semble en effet qu'on pourrait très bien dire, que le texte ne dit pas dans ce terme-là, je pense, mais qu'il y a de véritables charismes de communautés particulières ou même de personnes individuelles, de charisme de dialogue, de charisme d'annonce, et qu'il est tout à fait concevable que des personnes individuelles ou des groupes de chrétiens, des communautés, de petites communautés chrétiennes, s'engagent davantage selon les circonstances dans le dialogue, d'autres ailleurs s'engagent davantage dans l'annonce explicite et directe de l'Évangile. Je pense que cela est tout à fait acceptable, à condition que, dans l'ensemble, l'équilibre soit respecté et que ni le dialogue ni l'annonce ne soient lésés ou ne soient méconnus. Et je pense par exemple qu'au niveau d'un diocèse ou d'une église dans un pays, il faut s'interroger pour se demander, est-ce que on respecte cet équilibre-là ? Est-ce qu'on ne s'engage pas d'un des deux côtés, si vous voulez, ou dans une de ces deux dimensions, au détriment de l'autre ? Alors, l'annonce de l'Évangile, et aussi la rencontre dans le dialogue d'ailleurs, mais l'annonce de l'Évangile, on le dit encore une fois, doit garder cette dimension d'universalité. L'Évangile est là pour être annoncé à tous les êtres humains. Et les réponses, évidemment, seront très différentes. Donc le texte nous dit, certaines personnes vont entendre cette proclamation de l'Évangile et peut-être avec le temps, vont progresser dans une démarche de foi, de découverte du Christ, et vont même demander le baptême et l'entrée dans la communauté chrétienne. D'autres croyants appartenant à d'autres religions ne vont pas faire ce chemin-là parce qu'ils décident, même s'ils apprécient certaines valeurs chrétiennes ou même s'ils admirent la figure du Christ, ils décideront de rester dans leur propre tradition, de rester hindou ou musulman ou que sais-je. Et puis enfin, disent-ils, il y en a encore d'autres qui en fait, ça ne l'intéresse pas beaucoup. Manifestent guère ou pas du tout d'intérêt pour le Christ Jésus et pour le message de l'Évangile. Ça c'est les réponses des uns et des autres. Mais, dit le texte, c'est le numéro 79 que vous avez aussi, quoi qu'il en soit de cette diversité de réponses, la mission de l'Église s'adresse à tous les hommes. On peut considérer que dans le dialogue, l'Église a un rôle prophétique par rapport aux religions auxquelles ces personnes appartiennent. En rendant témoignage aux valeurs de l'Évangile, elle pose question à ces religions, et de même, comme on l'a déjà dit tout à l'heure, dans la mesure où elle porte la marque des limitations humaines, l'Église chrétienne peut être remise en question de la même manière. Par le fait donc de promouvoir ces valeurs, en esprit d'émulation et de respect pour le mystère de Dieu, les membres de l'Église, d'une part, les adeptes des autres religions, d'autre part, se retrouvent ensemble comme compagnons sur le chemin commun que toute l'humanité est appelée à parcourir. Et le passage suivant dit alors une chose qui me paraît intéressante aussi, c'est que cette responsabilité chrétienne de la démarche du dialogue n'est pas simplement pour l'Église d'entrer en dialogue avec les communautés des différentes autres religions, mais elle est aussi que l'Église chrétienne encourage ou favorise, quand elle le peut, le dialogue entre différentes religions non chrétiennes. Et ils disent le rôle ou la nature de sacrement de l'Église tel que Vatican II l'a enseigné va dans ce sens-là. Ça fait partie de la mission de l'Église, d'une certaine manière, non seulement de dialoguer avec les autres communautés croyantes, mais d'encourager le dialogue entre elles. Par exemple, les juifs et les musulmans, ou les hindous et les bouddhistes, ou que sais-je, ça fait aussi partie de la vie de l'Église. Numéro 82 que vous avez dans vos notes, c'est l'engagement personnel du chrétien. Tous les chrétiens sont appelés à être personnellement impliqués dans ces deux façons, dialogue et annonce, d'accomplir l'unique mission de l'Église. La forme en laquelle ils le font dépend bien sûr des circonstances et aussi du degré de préparation. Bon, tout le monde n'est pas théologien, ou tout le monde n'est pas ceci, ou tout le monde n'est pas cela. Ils doivent néanmoins toujours se rappeler que le dialogue ne constitue pas toute la mission de l'Église, qu'il ne peut pas simplement remplacer l'annonce, mais qu'il reste orienté vers l'annonce. C'est en celle-ci en effet que le processus dynamique de la mission évangélisatrice de l'Église atteint de nouveau, comme on l'a dit déjà, son sommet et sa plénitude. Et les toutes dernières lignes du texte, alors, sont un appel notamment aux conférences épiscopales. Donc là, on va, descendre sur le terrain et voir comment les choses peuvent se passer. On ne le fait pas de façon précise, mais on rappelle le principe. Il appartient maintenant aux conférences épiscopales, selon les situations dans lesquelles elles se trouvent dans toutes les parties du monde, de voir comment ces orientations sur le dialogue et sur l'annonce peuvent être adaptées selon le contexte religieux, le contexte socio-culturel, et ainsi de suite. Je ne vais pas conclure ce texte, il ne m'appartient pas à moi de le conclure, d'ailleurs il apporte sa propre conclusion, mais peut-être plutôt en prolongement, si vous voulez, et très rapidement, suggérer deux ou trois points de réflexion et de travail, en fait. Tout d'abord, me semble-t-il, tenir compte de la diversité des traditions ecclésiales, des théologies, des pratiques chrétiennes. Ici, je ne parle pas seulement de l'Église catholique, mais de toutes les Églises chrétiennes. Il y a une grande diversité dans la manière dont chacune comprend, ou comprend moins bien, ou comprend autrement le dialogue, comprend aussi l'annonce. Et je pense que le rapport entre annonce et dialogue est un point de rencontre et de discussion écuménique et de recherche écuménique entre Églises chrétiennes. Et j'en donne un exemple. Il a paru il y a un peu moins de 2 ans, au début de 2011, un petit document de 5 pages qui est intitulé « Le témoignage chrétien dans un monde multireligieux ». C'est un document dont le contenu, je dirais, ne casse rien d'une certaine manière, mais je trouve que l'intérêt du document, c'est qu'il a été travaillé ensemble et rédigé ensemble par un groupe du Conseil œcuménique des Églises de Genève, par le Conseil pontifical pour le dialogue interreligieux de Rome, et aussi à l'invitation du Conseil œcuménique des Églises, par l'Alliance mondiale évangélique, c'est-à-dire par un regroupement des Églises qui sont les Églises souvent les plus actives dans l'évangélisation directe. Deuxièmement, je dirais, les positions doctrinales des Églises chrétiennes. Mais plus encore peut-être que les positions doctrinales, les attitudes et les comportements des Églises chrétiennes dans l'annonce, dans le dialogue, expliquent pour une part les réactions parfois bien légitimes, parfois moins légitimes certainement, de communautés d'autres religions. On sent bien que montent un petit peu partout dans le monde aujourd'hui des réactions parfois assez hostiles au christianisme, qui sont encore en partie, je crois, le souvenir ou la mémoire ou les traces de la période coloniale, de certaines manières d'évangélisation qui étaient peu respectueuses, qui étaient peu dialogales, etc. Et il faut tenir compte, je pense, de ce passé-là. Troisièmement, tenir compte aussi d'abord de la diversité des religions. Ce soir, on a parlé inévitablement en général des religions, mais elles sont très différentes les unes des autres, et aussi de la diversité à l'intérieur de chaque religion. De même que tous les chrétiens ne sont pas d'accord entre eux sur la compréhension un peu fine de l'annonce et du dialogue et des rapports entre les deux, eh bien, tous les musulmans ou tous les hindous n'ont pas la même notion de ces choses-là. Et nous simplifions beaucoup quand nous disons les musulmans disent que, les bouddhistes pensent que, alors qu'il y a énormément d'écoles différentes, de courants différents et d'interprétations différentes parmi eux, comme il y en a aussi dans le monde chrétien. Il y a tout un travail à faire, je pense, pour réfléchir avec eux, pour connaître mieux de notre part, mais pour réfléchir avec eux aussi, avec les bouddhistes, avec les musulmans, avec les hindous, etc., etc., sur la manière dont eux comprennent le dialogue, dont eux comprennent l'annonce, et dont eux comprennent éventuellement le rapport entre le dialogue et l'annonce. Je pense que, par exemple, des religions qui ont d'emblée une dimension universelle ou universaliste, je pense à l'évidence à l'islam et aussi au bouddhisme. Ce sont deux religions qui ont une compréhension d'elles-mêmes universelle. Ne vont pas avoir la même conception du dialogue ou la même conception de l'annonce que, par exemple, les religions qu'on appelle traditionnelles, des religions qui sont généralement plus liées à un groupe ethnique et culturel particulier, ou même que des religions comme le judaïsme, par exemple, qui sont davantage liées à l'appartenance à un peuple, ou même qu'une religion comme l'hindouisme, qui a des dimensions universelles, mais qui a aussi des dimensions très liées à une culture et une société particulière, la société de caste, et ainsi de suite. Donc, selon le type de religion, il faut s'attendre à ce que la compréhension du dialogue, la compréhension de l'annonce, l'intérêt ou le manque d'intérêt relatif pour le dialogue, l'intérêt ou le manque d'intérêt relatif pour l'annonce, les juifs ne sont pas en train d'annoncer le judaïsme, les hindous le font peu aussi, alors que les musulmans le font beaucoup, les bouddhistes le font beaucoup, donc tenir compte de toute cette diversité. Il y a donc, me semble-t-il, à la fois entre chrétiens, et c'est un travail œcuménique, mais aussi avec les représentants d'autres religions, un énorme chantier là-bas, pour bien sûr, d'abord dans la vie concrète et dans la vie quotidienne et dans les rencontres personnelles, mais aussi au niveau de la connaissance que nous pouvons avoir de la foi les uns des autres et de la réflexion proprement théologique qui peut se dérouler dans chacune de ces religions sur les rapports entre dialogue et annonce. Je vous remercie de votre attention. Merci.